L'atelier des médias.
Informer n'est pas un délit, c'est le nom d'un collectif de journalistes constitué en janvier dernier pour lutter contre un amendement discret de ce qui était alors le projet de loi Macron du nom du ministre de l'économie français Emmanuel Macron. Cet amendement tentait de sanctuariser le secret des affaires en protégeant en faveur des entreprises qui étaient définies comme des informations non publiques qui font l'objet de mesures de protection raisonnables et qui ont une valeur économique. Avec ce texte, expliquait le collectif, un juge saisi par l'entreprise sera appelé à devenir le rédacteur en chef de la Nation qui décide de l'intérêt ou non d'une information. Nous, journalistes, refusons de nous contenter de recopier des communiqués de presse pour que vous, citoyens, restiez informés, écrivaient le 27 janvier des dizaines de professionnels des médias. Quelques jours plus tard, l'amendement était retiré, mais le combat est loin d'être fini. D'abord, parce que ce texte pourrait devenir une directive européenne. Ensuite, parce qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire appel à une loi ou un juge pour faire taire les journalistes. La mainmise de la finance, des télécommunications, de l'industrie de l'armement sur les principaux médias français est notamment une source d'inquiétude sans cesse réanimée. Informer n'est pas un délit est devenu récemment un livre écrit à 32 mains, un florilège de récits d'histoires personnelles racontant la difficulté d'enquêter. Harcèlement juridique, omerta, contre-attaque communicationnelle, menaces physiques, surveillance des téléphones, intimidation des sources, censure. La France n'est pas le pire élève du monde en termes de liberté de la presse. Les professionnels de l'information ne risquent pas leur vie, comme dans beaucoup trop de pays dans le monde. Pourtant, le journalisme reste ici, comme ailleurs, un combat quotidien. Une bataille où ceux qui se reposent sur leur laurier risquent fort de se réveiller amoindris et isolés. Une lutte d'autant plus difficile à mener que la profession a mauvaise presse et que les citoyens ont du mal à distinguer défense altruiste des libertés et réflexe égoïste de corporation. Informer n'est pas un délit, c'est le sujet de l'émission du jour. Nous sommes avec Fabrice Arfi de Mediapart et Paul Morera de Première Ligne. Pendant une heure, restez avec nous.
Il a fallu un an pour les convaincre de nous parler. Ils sont trois. Trois banquiers avec lesquels nous avons rendez-vous à Monaco. Leur spécialité, la gestion de fortune. Ils s'expriment pour la première fois. Et ce qu'ils vont nous révéler est explosif. Ces trois banquiers dénoncent un système d'évasion fiscale.
Cette enquête devait être diffusée en mai sur Canal+, dans le magazine spécial Investigation, et on l'a jamais vu. Que s'est-il passé, Jean-Pierre Canet ?
Bah écoutez, j'aimerais bien le savoir. En fait, on n'a jamais eu, nous, une explication officielle de la part de la direction de Canal+. Il faut savoir que oui, on a pu établir clairement de sources sûres. C'est vraiment en tant que journaliste que je tiens à m'exprimer que la non-diffusion de ce sujet vient directement de Vincent Bolloré et de la proximité entre le Crédit Mutuel, à la fois sur le plan économique et sur le plan personnel, entre le patron du Crédit Mutuel et Vincent Bolloré. Voilà.
Source sûre.
Ça, on peut l'établir clairement. Source sûre, je vous renvoie d'ailleurs à l'article de Fabrice Arfi dans Mediapart qui a été publié hier.
Mais dites-nous là.
Non, mais alors moi je n'ai pas l'habitude de dévoiler mes sources. Donc...
Le Grand Journal nous avait demandé qu'avec Paul Morera, qui est l'autre co-directeur de l'ouvrage, nous réservions l'exclusivité du lancement du livre à la télé au Grand Journal, pas C'est à vous, au Grand Journal.
La concurrence.
Voilà, et quand ils ont reçu les épreuves, ils sont revenus vers la maison d'édition un peu penauds sur le mode, bon, comment dire, en fait, on va plutôt rien faire du tout sur le livre. Et c'est vrai qu'il y avait un chapitre sur Bolloré.
L'atelier des médias. La web émission participative.
Bonjour Fabrice Arfi.
Bonjour.
Bonjour Paul Morera.
Bonjour.
Vous êtes deux figures françaises du journalisme d'investigation. Fabrice au sein de Mediapart et Paul avec les émissions 90 minutes pour Canal+, ou Cache Investigation produite par Première Ligne, l'agence que tu as fondée. Nous sommes ici pour parler d'un livre, Informer n'est pas un délit, d'un collectif du même nom, mais aussi d'une actualité qui illustre de manière indécente les propos et les intentions de cet ouvrage. Tout d'abord, on l'a entendu dans les extraits avant cet entretien, la censure d'un documentaire par la chaîne Canal+, mettant en cause le Crédit Mutuel, un documentaire qui a d'ailleurs été diffusé cette semaine sur France 3.
Fabrice. Oui, en fait, c'est l'une des illustrations de ce qu'on essaye de raconter, comme tu l'as dit, à 32 mains dans le livre « Informer n'est pas un délit », sur comment l'actionnariat, le poids du capital, les conflits d'intérêts, dans un moment historique de concentration des médias en France, quelles conséquences ça peut avoir sur la production du journalisme et surtout sur le droit de savoir des citoyens. Parce que comme ça, tu l'as très bien dit dans l'introduction, il faut surtout pas considérer que par un livre comme celui-là ou des combats que nous menons, nous sommes dans une forme de geste corporatiste pour défendre des privilèges de journalistes. Nous, on est des passeurs dans cette histoire. Ce qui compte et ce qu'on essaye de documenter, c'est qu'il y a un écosystème qui est pas bon, qui est voire même assez pourri en France, qui vole quelque chose aux citoyens. Et ce vol, c'est un vol culturel, c'est un vol symbolique, c'est l'information. C'est l'information pour décider ensemble, dans le pluralisme, la différence, y compris la polémique, une destinée commune. C'est pour ça que c'est consacré par les Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, notre Constitution. Dans le cas de Canal+, voilà un oligarque, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, qui a des liens d'intérêt très forts avec une banque, qui est le Crédit Mutuel, et qui apprend que la chaîne qu'il a rachetée, Canal+, va diffuser une enquête embarrassante sur la banque, et décide d'un simple coup de fil de censurer ce documentaire. Heureusement, le service public a récupéré in extremis et de manière un peu abracadabrantesque le film. Il a été diffusé et a même fait, je crois, un record d'audience.
Un film signé Nicolas Vescovacci, notamment.
Et Geoffrey Duvolzi, oui.
Qu'on entend dans les extraits de Simon. On t'entend aussi, toi, et là, c'est une autre forme de censure, en tout cas supposée. Tu devais être invité au Grand Journal de Canal+, pour parler de ce livre, et tu as été déprogrammé. Il y a un des articles du livre qui parle de Vincent Bolloré, qui raconte, donc c'est sous la plume de Benoît Colombat, les déboires qu'a eu ce journaliste de France Inter avec la justice, etc.
Voilà, Benoît Colombat de France Inter raconte l'incroyable difficulté à enquêter en Afrique sur ce qu'il a appelé l'Empire Noir de Bolloré. Oui, en fait, l'histoire avec le Grand Journal, c'est à la fois une anecdote très insignifiante et en même temps révélatrice de ce qu'on essaye un peu de raconter. Insignifiante parce que ça ne pèse rien par rapport au fracas du monde. Révélatrice parce que en effet, le Grand Journal début septembre avait dit à la maison d'édition ainsi qu'à moi-même qu'il voulait que Paul et moi réservions l'exclusivité du lancement télévisuel du livre à leur émission. Et en fait, après avoir vu les épreuves et notamment ce chapitre sur Vincent Bolloré, donc propriétaire...
Et sur Canal Plus aussi, hein, il faut le dire, c'est-à-dire que ce chapitre parle de la déprogrammation du documentaire sur le Crédit Mutuel et donc met en cause les méthodes de Canal+.
Le chapitre évoque également la déprogrammation, la censure du documentaire de Canal+. Et là où le Grand Journal était très allant, nous a fait savoir, très gêné, qu'en fait, ils ne feront rien. Et de sources internes, j'en ai gardé des traces, on nous a dit que c'était lié en effet à M. Bolloré. Est-ce que c'est une censure ou une autocensure? J'en sais absolument rien, mais quoi qu'il en soit, la situation est là. Voilà.
Paul, toi qui es producteur de documentaires, qui a longtemps travaillé à Canal+, ouais, et qui continue à travailler pour Canal+, ouais, quel est ton regard sur ces événements qui viennent illustrer d'une manière quand même presque caricatural les propos et les intentions du livre?
Je dirais que c'est presque inhabituel, parce que j'ai une conviction, c'est que la censure à l'ancienne, boum, ça ne passera pas, je le jette à la poubelle. Je pense que c'est la méthode la plus efficace pour rendre visible une enquête. J'ai bien dit visible, hein, ma langue n'a pas fourché. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu le vacarme médiatique, il y a tellement de choses qui sortent partout. Avant, on disait « vu à la télé » pour rendre les choses visibles. Aujourd'hui, c'est pas vu à la télé. C'est-à-dire que ça attire énormément. Censuré. Alors là, d'ailleurs, les chiffres de la diffusion du documentaire sur France 3, du documentaire censuré, c'est devenu un argument marketing. Donc j'invite tous les oligarques qui contrôlent les médias, et Dieu sait qu'il y en a en ce moment, à bien mesurer ce qu'ils font. Parce qu'à chaque fois qu'ils censureront à l'ancienne, ils effectuent une opération de marketing pour une information qu'ils voulaient rendre invisible.
Comment est né le projet de ce livre que vous co-dirigez? Et on a dit 32 mains, mais il y a 16 auteurs, voilà. 16 co-auteurs.
Oui, en fait, c'est comme tu l'as dit dans ton introduction, au moment de cet amendement Macron, amendement secret des affaires dans la loi Macron, qui avait été glissé nuitamment en commission à l'Assemblée nationale et qui nous a tous surpris et qui nous a tous réunis d'une manière très inédite. Quand je dis tout, c'est des journalistes qui venaient du service public, de groupes privés, de BFM à Mediapart. Alors tout est né, c'est vrai, par solidarité, amitié professionnelle entre Cache Investigation, Première Ligne et Mediapart. Mais après, ce sont des centaines de journalistes qui se sont retrouvés. Et à ce moment-là, avec Paul, on avait eu des discussions pour se dire, mais il y a quelque chose à saisir, en fait. Ça nous dit quelque chose, non pas de la profession, mais du journalisme. Et encore une fois, donc, de la liberté liberté d'informer dans notre pays. Et on s'est dit, ce serait formidable qu'on puisse mettre autour de la table des journalistes très divers, mais qui puissent documenter le plus factuellement possible ce qu'a pu être la coulisse de certaines de leurs enquêtes célèbres, et surtout les embûches qu'ils ont rencontrées, qui nous permettent d'interroger notre système politique, institutionnel, judiciaire, légal, sur ce déficit français en ce qui concerne la liberté d'informer. Alors, comme tu l'as dit, oui, on ne meurt pas d'être journaliste en France. On n'est pas en Russie, on n'est pas au Congo ou dans bien d'autres pays où on risque sa vie pour informer. Pour autant, il est de notre devoir d'interroger notre démocratie sur ce bien fondamental. Et là, on voit qu'on n'est pas au niveau. On est même très loin d'être au niveau.
Est-ce que c'est le fruit d'une évolution inquiétante ou d'un état de fait qui perdure, Paul ?
Moi, je crois que, en fait, il y a eu... Parce qu'on est souvent confronté à cette question-là. On nous dit, ouais, mais c'est mieux qu'avant quand même. Souvenez-vous, quand Perfit, il venait annoncer le changement de décor du JT. C'est vrai que c'était choquant. Mais en fait... Aujourd'hui, de manière extrêmement insidieuse, est revenue une sorte d'intimidation permanente. Et c'est vrai qu'on est plus soumis à l'autocensure qu'à... J'invite les gens qui peuvent, via Google, regarder ce qu'étaient les JT dans les années 80. Comment le présentateur donnait son point de vue. C'est un truc incroyable.
Qualitativement, c'est
incroyable.
D'ailleurs, c'était très inspiré de la radio et du ton de la radio.
Absolument.
C'est très écrit.
Walter Cronkite aux États-Unis, mais même Mazur, Langlois. Bon, il s'est fait virer parce qu'il était un tout petit peu loin en disant que la mort de Gamayel était plus importante que celle de Grace Kelly. Mais on se permettait ça. On se permettait ça. Et aujourd'hui, le niveau d'autocensure est tel. Que, à mon sens, il y a vraiment eu un recul de la liberté d'expression par rapport à il y a 20 ans. Alors maintenant, ce qu'on décrit dans le bouquin avec cette espèce d'expérience chorale illustre assez bien à quoi on fait face, quoi. C'est-à-dire, des fois, c'est parce qu'on est dans un groupe qui a des intérêts qui font qu'on peut pas accéder à certaines choses. La plupart du temps, il y a des intimidations judiciaires avec des cas extrêmes. Et assez souvent, en fait, les journalistes aujourd'hui se taisent avant d'écrire. Donc il y a le sentiment qu'il n'y a pas de censure. En réalité, il y a un état de censure assez fort.
Il y a 12 chapitres dans le livre, 12 histoires, 12 témoignages qui montrent l'envers de la médaille, les doutes, les difficultés, la solitude des journalistes qui dérangent le système. On va écouter une des auteurs.
Donc, je m'appelle Mathilde Mathieu, je suis journaliste à Mediapart. D'abord au service politique où j'ai couvert les débats parlementaires et puis petit à petit et de plus en plus journaliste spécialiste en fait des coulisses du Parlement, les coulisses financières. Voilà, que font les élus de leurs différentes enveloppes ? Est-ce qu'ils en font un usage privé ? La réponse est oui pour certains. Et plus je cherche et plus je m'y intéresse et plus j'en trouve. Et plus je me rends compte que ce sont des dérives individuelles, mais qui ont été facilitées par le Parlement et le système lui-même.
Le titre du chapitre que tu as signé, c'est « Au Parlement, l'information est une guerre d'usure ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que tout est fait par l'institution pour décourager les curiosités des journalistes. Donc moi, à la différence de certains de mes collègues qui signent dans ce livre, je n'ai pas subi de menaces de mort, de pression directe, de chantage, etc. Par contre, tout a été fait pour me décourager dans mes enquêtes. On ne répond pas aux questions. Quand on demande quelles sont les règles, par exemple, sur l'usage de telle ou telle enveloppe distribuée aux parlementaires, on ne me les explique pas. Donc c'est évidemment plus difficile de savoir qui ne les respecte pas quand ces règles ne sont même pas énoncées. Voilà, donc c'est plutôt un mur du silence que une défense, je dirais, proactive et agressive de l'institution. Voilà. Mais donc, je m'apercevais de plus en plus que, en fait, personne ne pouvait me dire comment les députés utilisent leur fameuse enveloppe IRFM, les quelques 6 000 euros dont ils disposent chaque mois pour leurs dépenses professionnelles, pour le costard, la voiture, l'essence, les déjeuners professionnels. Et cette enveloppe, elle est trop souvent détournée à des fins personnelles. Voilà, un usage privé. Donc, on a raconté dans Mediapart comment Cahuzac avait dépensé cette enveloppe dans un magasin de sauna, de hammam, comment une députée UMP s'était payée une petite croisière en Méditerranée avec son équipe, mais aussi son mari, avec cet argent public. La difficulté, c'est qu'il n'y a aucune donnée publique sur l'usage que les députés font de cet argent. Donc, on ne sait pas, à la fin de leur mandat, combien tel ou tel député a dépensé de cette enveloppe. Et si, parce qu'il n'avait pas tout dépensé, par miracle, il en a rendu à l'Assemblée nationale.
Quand vous avez réussi à démontrer ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ont réagi le Sénat et l'Assemblée nationale ?
Alors quand Mediapart a révélé un usage privé de fonds publics par certains députés, il ne s'est absolument rien passé. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale ne s'est pas emparée de ces informations. Non seulement elle n'a pas tenté en interne de savoir ce qui s'était passé, si aucune enquête interne n'a été engagée, mais elle n'a pas non plus saisi la justice sur la base de l'article 40, hein, signalement de possibles infractions. Moi, je ne sais pas s'il s'agissait d'une infraction, mais j'aurais aimé que l'Assemblée se dise « Bon, la presse révèle une affaire, on saisit la justice pour que la justice tranche et dise s'il y a ou pas infraction. » Il ne s'est absolument rien passé, c'est l'étouffoir. Alors, ce que j'entends beaucoup dire dans les coulisses, c'est « Mais attention, quand vous révélez comme ça des dérives individuelles, vous alimentez le discours, notamment du Front National, sur le tous pourri, vous abîmez la démocratie parlementaire, vous alimentez la démagogie. » Moi, ce que j'essaye de leur expliquer aux parlementaires qui me disent ça, c'est que c'est évidemment la dénonciation des comportements individuels problématiques, leur dénonciation par l'institution et pas seulement par la presse, qui peut redorer le blason des parlementaires. Il me semble que la Grande-Bretagne, par exemple, a compris qu'encourager la transparence, c'était un levier pour encourager la vertu en politique, et que plus les parlementaires savent que leurs dépenses, par exemple, sont rendues publiques, plus ils ont des dépenses respectueuses de l'éthique et des règles. Voilà. Je crois que l'opacité est encore pire au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Et Mediapart a révélé, par exemple, une affaire très, très symptomatique. Quand on a révélé tout ça, que s'est-il passé? Non seulement le Sénat n'a pas saisi la justice de ces faits, pour qu'elle enquête sur les agissements de son membre, mais le Sénat a déposé plainte pour vol de documents contre X. X n'étant pas Mediapart, Mediapart n'était pas accusé d'avoir volé les documents, X étant, dans l'esprit du Sénat, les fonctionnaires ou assistants parlementaires ou en tout cas petites mains internes à la maison qui étaient suspectés de nous avoir transmis les documents. C'est-à-dire que le Sénat a déclenché une chasse aux sorcières dans ses murs pour trouver quel était le lanceur d'alerte qui avait informé Mediapart et révélé ce qui, pour moi, pouvait être caractérisé comme une infraction, comme peut-être un détournement de fonds publics. Enfin, on ne saura jamais puisque la justice a bien été saisie d'un éventuel vol de documents au Sénat, mais absolument pas des faits du sénateur qui avait fabriqué de fausses notes de frais.
C'était Mathilde Mathieu de Mediapart, co-auteur de « Informer n'est pas un délit », un livre que tu as co-dirigé, Paul Morera. Et ton chapitre, l'article que tu signes dans le livre de « La liberté d'informer », revient sur ces idées de déficit de transparence des institutions publiques. Tu écris « Aujourd'hui, la transparence est une arme presque exclusivement aux mains des pouvoirs économiques et politiques ». En gros, ils voient très bien tout ce que nous faisons, mais c'est très difficile de savoir ce que eux font.
Surtout en France, il faut le dire quand même. Parce que ce pays a une histoire d'occultation de certaines périodes sombres de son histoire qui fait que c'est rentré dans le code ADN de la démocratie française. Les événements que décrit Mathilde Mathieu donneraient lieu à des suites judiciaires, des commissions d'enquête dans les pays anglo-saxons ou nordiques, c'est évident. L'opacité de la société française et de son administration, on peut la relier très directement à 39-45, puis les événements de la guerre d'Algérie. C'est un chapitre en fait qui est une demande aussi, qui est une exigence, c'est-à-dire qu'on institue en France comme en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays nordiques, une véritable loi de transparence, d'accès aux documents administratifs. C'est-à-dire que ça ne paraisse pas bizarre qu'un citoyen, que n'importe quel citoyen puisse se rendre dans un ministère et dire « je veux consulter les notes de frais du ministre » ou « je veux consulter les notes de frais du parlementaire ». Contrairement à ce qu'on croit, cette exigence de transparence ne nourrit pas le Front National. Cette lumière, au contraire, désintègre le discours du Front National. Parce que le Front National se sert de cette opacité pour nourrir le soupçon permanent. Donc, anéantissant le soupçon, faisons la lumière. Il n'y a rien de plus efficace que ça.
On va marquer une courte pause. Je te cite, pour finir, on se retrouve dans 3 minutes, je cite donc la fin de ton chapitre. « Alors que les théoriciens de la conspiration n'ont jamais rencontré autant d'écho dans la jeunesse, s'appuyant justement sur l'opacité pour dessiner des chimères qui peuvent accoucher du pire, il y a urgence. Il est vital que la transparence devienne la règle et le secret l'exception. » À tout de suite.
Vous écoutez RFI et vous souhaitez nouer des liens plus forts avec votre radio.
Les médias.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec Fabrice Arfi et Paul Morera, co-auteurs et co-directeurs de l'ouvrage collectif « Informer n'est pas un délit ».
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous, 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 vous.
Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini.
Fabrice Arfi, tu signes, toi, le premier chapitre de ce livre qui s'appelle « Le droit et le travers ». Et je vais lire la première phrase. « Le journalisme n'est pas un délit », donc ça c'est le titre du livre, « mais qu'est-ce que je peux passer de temps dans les cabinets d'instruction et dans les salles d'audience ?»
Oui, alors, qu'on se comprenne bien, aucun des signataires de ce livre ne réclame l'irresponsabilité devant la loi du journalisme. Il est bien entendu normal que nous ayons à répondre de nos écrits devant la loi, on n'est pas au-dessus de la loi, si des gens s'estiment diffamés ou atteints dans leur honneur. C'est la moindre des choses que le journalisme soit responsable devant les tribunaux. Mais attention, il y a une condition, et c'est une condition qui est fondamentale et trop souvent humiliée. Cette condition, c'est qu'on réponde de cela dans le cadre de la loi sur la presse, qui, depuis 1881, a été rédigée, votée et promulguée pour cette raison, c'est-à-dire c'est la déontologie au regard de la loi du journaliste et du journalisme. Et ce à quoi nous assistons depuis des années, c'est une espèce d'entreprise plus ou moins concertée, qui des pouvoirs publics, qui surtout des grandes entreprises, qui contournent ce droit de la presse en opposant aux journalistes des délits qui n'ont rien à voir avec la loi de 1881, qui font du journalisme un receleur de la violation d'un secret, secret défense, d'un vol de documents, d'une atteinte à la vie privée, d'un faux ou d'un usage de faux qui est très commode pour disqualifier une information. Et cela, ça n'est pas du juridisme, une revendication pointilleuse et un peu pénible que je veux faire. C'est qu'en contournant le droit de la presse, c'est une façon de museler le droit de savoir des citoyens. Et l'objectif de ce type d'action pénale, c'est tout simplement, au-delà de museler et d'intimider les autres, c'est de trouver nos sources. C'est-à-dire qu'on donne des moyens légaux aux services de police ou aux magistrats d'aller trouver qui est l'auteur principal du délit dont nous serons le receleur.
Trouver vos sources, comme tu l'expliques, mais aussi ne pas enquêter sur le fond. C'est-à-dire ne pas savoir si ce que vous avez révélé est vrai ou faux, parce que là, ce n'est pas la question. Il faut savoir si vous avez bel et bien volé ces documents, recelé ces informations, etc.
Exactement. En fait, c'est une technique d'esquive judiciaire, mais aussi de communication vis-à-vis du public. C'est-à-dire que c'est très commode pour les personnes mises en cause ou dont on parle sur des faits précis, au lieu de répondre sur le fond des faits, pouvoir aller à la télé, à la radio, dans les journaux, dire « mais attendez, nous, on a déposé plainte pour vol de documents, pour faux usage de faux, pour atteinte à la vie privée », ce qui permet en fait d'anesthésier la conversation sur le fond des faits. Et c'est une forme de harcèlement judiciaire et de contournement de la loi pour que le journaliste arrête d'enquêter. Donc c'est un problème qui est très profond et pour l'instant, la loi ne change pas, les gouvernements de droite comme de gauche ne s'emparent pas de cette discussion-là.
Et dans ton cas, c'est très concret, tu es poursuivi dans deux affaires, au moins, peut-être qu'il y en a d'autres.
Donc
l'affaire Bettencourt et l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy. Tu peux détailler ce qui se passe dans ces deux cas?
La plus brûlante, entre guillemets, est l'affaire Bettencourt, parce que je vais être jugé dans moins d'un mois devant le tribunal correctionnel de Bordeaux avec d'autres journalistes du Monde et du Point pour recel d'atteinte à l'intimité de la vie privée. En fait, pourquoi? Pour avoir révélé les pièces à conviction, les fameux enregistrements du majordome Bettencourt, qui sont devenus les preuves judiciaires qui ont permis de condamner une dizaine de personnes dans cette affaire, dont certains de la prison ferme.
Donc on est dans ont été condamnés parce qu'ils influençaient cette
parce qu'ils ont dépouillé Madame Bettencourt de sa richesse en profitant de sa faiblesse. Voilà. Et c'est nous qui avons révélé les dessous de cette affaire. Alors sur la foi de ces enregistrements que nous n'avons pas commandités. Si nous avions commandité les enregistrements clandestins du majordome, je ne dis pas. Nous ne les avons pas commandités. Nous avons eu la totalité des enregistrements. Et nous avons précisément choisi dedans ce qui relevait de l'intérêt public. La fraude fiscale, les conflits d'intérêts d'un membre du gouvernement, les pressions de l'Élysée sur la justice, l'actionnariat de L'Oréal, le financement de la vie publique, qu'est-ce qui, dans ces éléments que je viens de citer, a à voir avec la vie privée? Eh ben, la justice française, qui nous a déjà condamnés au civil à une censure judiciaire historique, nous avons dû retirer les 70 articles à l'origine de l'affaire Bettencourt. Maintenant, c'est au volet pénal que nous risquons d'être condamnés. Et nous sommes dans une situation un peu folle, puisque, en réalité, la justice supranationale, la Cour européenne des droits de l'homme, nous protège dans cette affaire. Donc, si nous devions être condamnés au pénal, je prends le pari que, à terme, c'est la France, l'État français qui sera condamné devant l'Europe, parce que là, nous avons une chance européenne, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme protège mieux le journalisme. Mais il y a une espèce de protectionnisme judiciaire français qui ne veut pas regarder la liberté d'informer comme un bien fondamental.
Paul Moréen.
Oui, non, je voulais dire qu'en réalité, là, il y a une... Encore là, il y a une illusion d'optique, c'est-à-dire que on pense, le grand public pense que nous sommes en droit de protéger nos sources, ce qui est techniquement vrai sur le plan du droit. We have the right to remain silent. On a le droit de rester silencieux quand on nous pose la question « qui vous a parlé ?». Mais en réalité, ce droit, il n'existe plus dans la mesure où il y a aujourd'hui des moyens technologiques d'identifier nos sources. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. L'un de nos journalistes à la première ligne pour Cache Investigation a fait une enquête remarquable sur une boîte qui agit au Luxembourg, qui s'appelle PricewaterhouseCoopers, et qui propose à des multinationales en fait une espèce d'ingénierie fiscale qui leur permet, au lieu de payer 33% d'impôts sur leurs revenus dans les pays où ils ont travaillé, de payer que 3, 4, 5, 6% au Luxembourg. Donc, énorme gain pour ces boîtes. Il réussit à faire état concrètement de cette ingénierie dont on sait tous qu'elle existe, mais c'est rare de pouvoir montrer exactement comment ça fonctionne, à quel bureau ça se passe, etc. Donc il réussit à faire ça, honnêtement, parce qu'il y a une source à l'intérieur qui lui parle. Cette source, elle va être identifiée. Et comment elle va être identifiée? Parce que tout simplement, il y a une équipe d'experts, hein, comme dans les feuilletons américains, qui arrivent de New York, qui vont faire passer au crible tous les ordis, les heures de login, qu'est-ce qui a été téléchargé, à telle heure, et puis petit à petit, par effet d'entonnoir, ils vont tomber sur la personne qui a effectivement transmis le document à Édouard Perrin pour qu'il puisse réaliser son enquête. Sachant que son enquête, comme il va la partager avec un réseau international de journalistes, elle va donner lieu à quelque chose d'assez important, qu'on a appelé LuxLeaks, et qui va vraiment pousser un peu la Commission européenne à réagir sur ces questions fiscales. À tel point que le lanceur d'alerte, donc qui s'appelle Antoine Deltour, est aujourd'hui nominé, je ne sais pas s'il l'aura, mais il est nominé avec cette personne au prix Sakharov, qui est un prix éminemment prestigieux. Donc nous avons ce garçon qui est nominé à un prix prestigieux parce que toute la planète reconnaît que ce type a fait le bien des communautés publiques, a travaillé pour le bien de la communauté. Et nous avons l'État du Luxembourg qui le poursuit, lui et Édouard Perrin, le journaliste qui a sorti cette histoire, qui est terrorisé parce qu'il se dit « mais j'espère que je ne vais pas avoir à payer jusqu'à la fin de mes jours une énorme amende à une boîte dont l'unique activité est de permettre à des grosses entreprises de ne pas payer leurs dus à des communautés nationales ». C'est le choc de ce paradoxe devrait quand même parler au plus grand nombre. Quoi.
On va rester dans le domaine de la finance et on va même peut-être rester un peu au Luxembourg avec le témoignage d'un autre co-auteur de ce livre.
Je m'appelle Denis Robert, j'écris des livres. Mais je fais pas que ça dans la vie, hein. Je fais aussi des films, je fais des toiles, etc. Je suis malheureusement très connu en raison d'une... Très connu, enfin je veux dire, je suis plus connu en raison d'une affaire qui s'appelle Clearstream qu'en raison du reste, mais tout va bien, quoi.
Alors Denis, toi tu signes un des textes donc de ce livre, ça s'appelle « Délit de journalisme » et tu reviens sur... 16 ans de travail sur Clearstream, qui est donc une multinationale basée au Luxembourg, de la finance, et sur plus de 10 années de procédures en ce qui te concerne.
Bah, c'est-à-dire, j'ai commencé l'enquête, moi, en 99, quoi. Il y a eu 2 ans d'enquête, le premier livre sort en 2001, le premier documentaire aussi. Comme je suis très attaqué, puisqu'on est vraiment dans un délit de journalisme, j'ai pas les moyens de me défendre autre que d'écrire un second livre, qui lui-même est très attaqué. Et puis je fais un second doc. En fait, la multinationale, ce que va faire Clearstream, mais pas que Clearstream, les banques que je mets en cause aussi, vont déposer des plaintes dans plusieurs pays. Et ils vont exercer sur moi ce qu'on appelle une procédure bâillon. C'est-à-dire, on multiplie les procédures pour me faire taire, quoi.
Procédure bâillon, concrètement, c'est 62 procès pour diffamation.
C'est-à-dire qu'il y a eu des plaintes en première instance, des plaintes en appel. J'ai eu beaucoup d'huissiers à la maison. J'ai eu à peu près, je les ai plus comptés, moi, passé 300 visites. Dans la période dure, là, je les ai plus comptés. Ensuite, j'ai eu droit aux plaintes au Luxembourg, qui sont très contraignantes parce que financièrement chères. Et donc, je me suis retrouvé ensuite dans une mécanique qui était un peu folle, puisque chaque fois que j'essayais de répondre, les types réattaquaient. Et puis, il y a eu une campagne de presse contre moi. Maintenant, je peux l'analyser, quoi. Voilà, avec d'ailleurs des gens qui sont dans le bouquin, qui ont largement participé à cette campagne de presse. Mais aujourd'hui, je dis ça en marrant parce que, bon voilà, c'est derrière moi, mais quand même, quoi. C'est important de se rendre compte que dans ce milieu, je parle des journalistes aussi, l'information, c'est pas forcément ce qui est privilégié. Ce qui est privilégié, c'est le titre auquel on appartient ou sa petite personne. Et moi, je fonctionne pas comme ça, quoi. C'est-à-dire que je me suis après battu. Ça a été un combat harassant, quoi. Mais j'ai été soutenu par mes lecteurs, par les gens qui avaient vu le documentaire, etc. Et alors, peut-être ce qui m'a aussi desservi, c'est le fait que je travaille seul, quoi, et que j'ai pas un journal avec moi, et que je sais pas. Après, on m'a fait des procès en sorcellerie un peu stupides. Bon, voilà. Heureusement, l'arrêt de la Cour de cassation qui date de février 2011, en fait. L'affaire, pour moi, s'arrête là, puisque la Cour de cassation va rendre des arrêts qui me sont favorables en tout point. Ils ont jugé que mon enquête était sérieuse, de bonne foi, servait l'intérêt général, et ils ont débouté Clearstream. Ils ont renvoyé à la Cour d'appel de Lyon pour des préjudices. Alors, si j'étais aux États-Unis aujourd'hui, je pourrais racheter un journal avec le montant du préjudice, mais en France, les magistrats ont estimé in fine que ça faisait partie des risques du métier, quoi, ces 10 années de procédure, ce que je trouve un peu limite, quoi. Alors, la vie est quand même étrangement faite, parce que malgré tout cela, Clearstream continue, quoi. On peut les accuser aujourd'hui des vices de ce dont je les accuse. Banque mafieuse accueillie chez eux, effacement systématique des transactions, appauvrissement des États, puisque c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en transférant ses argents vers des paradis fiscaux, évidemment, ça appauvrit les États. Eh bien, malgré les procès, malgré ce que je peux dire là, le truc va continuer.
C'était Denis Robert, co-auteur de « Informer n'est pas un délit ». Il y a énormément de choses dans son témoignage. Il y a d'abord la solitude du journaliste indépendant qui ne peut pas se reposer sur une rédaction. Il y a l'acharnement judiciaire, 62 procès, plus de 300 descentes d'huissier chez lui. Il y a aussi l'utilisation de la presse pour le dénigrer. Il y a eu un encart dans Le Monde qui l'appelait à faire une conciliation avec Clearstream. Et d'ailleurs, Denis Robert n'est pas le seul dans le livre à rappeler que la presse est utilisée, instrumentalisée pour dénigrer les confrères. Fabrice Lhomme et Gérard Davet le racontent avec l'utilisation du Figaro, du JDD, de Valeurs Actuelles pour les dénigrer.
Donc oui, de toute façon, enquêter sur des trucs sensibles de manière solitaire, c'est très très risqué. Ce que tu évoques là, de voir comment parfois certains confrères peuvent prendre les patins des types auxquels on s'attaque, c'est très énervant, très troublant. Mais je dirais que d'une certaine manière, sans faire de règlement de compte personnel avec des journalistes, quand tu fais de l'enquête et que tu arrives avec une histoire forte, la trahison la pire que tu ressens, c'est quand tes infos ne sont pas reprises. Pas parce qu'on te veut du mal, mais parce qu'on décide que Nadine Morano, qui a dit la race blanche, c'est plus important que de parler des problèmes d'optimisation fiscale de l'OCDE, de machin, alors que c'est pas le cœur du problème, quoi. Et toi, tu le ressens comme une blessure. Tu te dis, merde, putain, ça sert à rien que je me décarcasse à prendre des risques personnels, des risques juridiques, enfin, on vient d'en parler, pour qu'à la fin, c'est... Parce que pour qu'une information existe aujourd'hui...
Elle doit être reprise.
Elle doit être reprise, sinon elle n'existe pas.
Enfin, ce que Denis Robert a vécu, il l'a dit, 300 fois les huissiers chez vous, si c'est pas une torture judiciaire, je vois pas ce que c'est. Enfin, c'est fait pour faire taire, voilà, par la voie légale. Et tu citais le chapitre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme du Monde, où on voit que parfois certains médias, en fait, se font le relais de travail de barbouzerie, en réalité, de pure officine. Des médias ont été le relais d'entreprises d'espionnage, de surveillance de journalistes pour, encore une fois, trouver leurs sources, savoir qui les informe, pour les discréditer aux yeux de l'opinion publique. Et quand on parle, Paul en parlait tout à l'heure, du secret des sources, il faut bien comprendre que le secret des sources, c'est pas un secret comme un autre. C'est un secret pour une liberté. C'est-à-dire, c'est pas comme le secret de l'instruction, le secret des défenses ou le secret des affaires. C'est, ce qui est important, c'est pas le mot secret dedans, c'est le mot source. C'est pas un privilège de journaliste. C'est comment, dans une démocratie, institutionnellement, même judiciairement, on donne la liberté à n'importe qui dans le pays, un jour, de venir aller voir un journaliste pour lui dire, je crois que j'ai des informations d'intérêt public, qu'il soit d'ailleurs bienveillant ou malveillant dans sa démarche. C'est à nous de circonscrire tout ça, mais c'est à nous de le protéger, vu ce que peuvent être les conséquences pour sa vie personnelle, familiale, professionnelle, parfois pire, du risque et du courage qu'il doit prendre pour dénoncer des informations d'intérêt public. It's like a jungle sometimes. Welcome to the wonderful life sometimes. And the writers arrive. Where the life of crime is kind of sublime. Mics to a lifeline. Ride that shit. On ne peut pas revenir sur toutes les histoires qui sont racontées, tous les aspects. Donc, il y a notamment les joies du journalisme en région, avec deux articles, Hélène Constanti et Jacques-Olivier Tessier. Hélène Constanti pour la région de Nice, elle raconte un peu les mœurs du clan Estrosi. Jacques-Olivier Tessier, il parle de Montpellier, il parle de la puissance des communes, des villes, oui, etc., financières, parce que ce sont elles, en gros, qui financent la presse locale.
Ils achètent la paix éditoriale.
Voilà. Et donc, évidemment, de la difficulté à gérer les potentats locaux. Il y a Benoît Colombat qui revient, on l'a dit, sur le groupe Bolloré. Il y a le FN aussi avec Caroline Monod et Marine Turchi qui, avec un article ou un chapitre qui s'appelle « Je vais te tuer » qui explique en gros la manière dont à la fois le FN se sert des matinales et de tout ce qui fait du bruit un petit peu dans les médias et en même temps ostracise tous ceux qui veulent vraiment enquêter sur le parti et qui essayent de faire du journalisme dans son giron. On va écouter un dernier témoignage qui revient sur cette question des lobbies.
Alors, je m'appelle Laurent Richard et je suis journaliste à l'agence de presse Première Ligne Télévision, qui est une agence indépendante et qui produit des docs d'investigation pour toutes les chaînes de télévision.
Et tu as participé donc à cet ouvrage collectif. Le titre de ton chapitre, c'est « Le mur des communicants ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Le mur des communicants, ça raconte en fait notre principale difficulté quand nous, on enquête dans la sphère économique, c'est-à-dire savoir faire parler des chefs d'entreprise. Décrocher l'interview d'un patron du CAC 40, c'est extrêmement compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, en face de nous, entre le grand patron et le journaliste, il y a un mur, et c'est le mur des communicants. Et c'est un mur quasiment infranchissable. Aujourd'hui, on peut pas accéder directement au grand patron. Il y a un mur en face, il y a des attachés de presse, il y a des communicants, il y a des agences de communication, il y a des agences d'influence. Chez Havas, qui est une grande société de relations publiques, il y a même un pôle qui s'appelle le pôle influence, et il est là pour nous influencer. On dit qu'aux États-Unis, il y aurait environ 4,6 communicants pour un journaliste. Donc nous, les journalistes, nous sommes vraiment des cibles de ces pôles d'influence-là pour transmettre de la communication et faire moins d'informations. Donc notre métier, c'est de faire parler ces chefs d'entreprise-là. Donc c'est à nous de trouver les astuces pour contourner ce mur, pour sauter par-dessus ce mur, pour avoir de l'info et offrir cette info-là aux auditeurs ou aux téléspectateurs.
À quel moment, pour toi, ce type de difficulté, qui est courant, hein, d'accéder aux personnes qu'on veut faire parler, à quel moment ça rentre dans la démarche générale « informer n'est pas un délit » parce que tu es un des acteurs de ce mouvement?
C'est, en fait, dès le départ, informer est une activité compliquée. C'est-à-dire que si je veux aller dans une conférence de presse et si je dis que je travaille pour Cache Investigation, dès le départ, il va y avoir deux attachés de presse qui vont se retrouver un mètre derrière moi. Là où c'est compliqué pour nous par rapport à ces attachés de presse, à ces services de communication, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on avance dans notre enquête, on est face à des communicants qui essayent soit de nous dissuader, soit de nous manipuler, de nous dire qu'on se trompe, de nous menacer judiciairement, de nous dire qu'on a une réputation qui est sérieuse jusqu'ici, il faudrait pas que cette réputation s'effondre, de nous dissuader de vouloir faire telle interview, puis finalement de nous faire parler sur notre enquête pour absorber le fond de notre enquête, avoir toutes les infos sur ce qu'on va diffuser, au prétexte de vouloir organiser une interview, mais en fait l'interview n'a jamais lieu, on essuie plusieurs refus et à la fin on est obligé d'aller rencontrer le grand patron là où il se trouve dans une conférence publique parce que nous, à Cache et dans ce collectif, on estime que les responsables d'entreprise, les élus, ont un devoir de transparence vis-à-vis de leurs clients et de l'opinion publique. Et donc nous, journalistes, on est là pour agir au nom des citoyens et au nom de l'opinion publique et au nom de, même des clients de ces entreprises-là pour avoir de l'information.
C'était donc Laurent Richard de l'agence Première Ligne. Paul, donc il travaille avec toi, Laurent.
Ouais, absolument. Oui. Ouais, non, mais alors, ce qu'il décrit est évidemment tout à fait authentique, mais parfois c'est beaucoup plus subtil. Je peux vous raconter une petite anecdote rigolote. Du temps de 90 minutes, donc l'émission dont je m'occupais sur Canal+, on avait fait une enquête. Jean-Baptiste Rivoire, qui était un de nos journées, ça avait fait une enquête sur comment le lobby du médicament influençait la communication, visait à créer des symptômes parce qu'en fait, il y a un médicament à vendre par en dessous. Enfin, sur l'influence de l'opinion publique, en fait. Et deux petits événements autour de cette enquête. Mon téléphone sonne un jour et il y a un type d'une agence qui s'appelait Glamour Speakers qui me dit, ben voilà, je travaille pour un laboratoire pharmaceutique qui fait des anticholestérol et on fait à Cannes une conférence et on s'est dit que ce serait bien le sérieux et la poigne d'un journaliste d'investigation pour animer la conférence, etc.
Et ça s'appelle un ménage dans le jargon.
Voilà. Alors aussitôt, je déclenche la caméra. On avait une caméra qui était pas loin. Je déclenche la caméra et je fais mine d'être intéressé. Bon, on enregistre toute la conversation. Alors j'étais un peu vexé par le prix qu'il me proposait, parce que c'est que 5000 euros. Donc, il a dit, on commence à discuter à 5000. Donc pour un peu me remonter, à quoi ça sert? Évidemment, j'ai un journaliste qui travaille là-dessus. Si je me mouille dans cette histoire où je me dis en 2 heures, je peux gagner 5000 euros, ça fait réfléchir quand même. C'est les êtres humains étant ce qu'ils sont. Mais à quoi ça sert derrière? Dans la même enquête, Jean-Baptiste Rivoire interroge le patron du LEM, donc le patron du lobbying des médicaments, et lui dit, les ménages, comment vous mouillez les journalistes pour leur faire écrire ce que vous voulez, etc. Et il dit, ouais, mais une de vos sources là, je peux le citer parce qu'on l'a interrogé, Monsieur Vinclair, le gars qui était médecin et chroniqueur sur France Inter. Ah, il s'attaque beaucoup à nous, mais il vous dit pas qu'il a fait un ménage pour nous. Et là, ah bon? Et là, Jean-Baptiste revient à la rédacte, mais le Vinclair, il aurait fait un ménage pour eux. Je sais pas, on est obligé de le traiter. Voilà à quoi ça sert, en fait, de mouiller un type. Alors, on l'a appelé et Vinclair dit, bah ouais, j'ai fait un ménage, le seul ménage de ma vie. C'était pour la pilule du lendemain. J'y croyais, mais j'ai pris des sous et j'ai fait une énorme connerie. Et voilà comment ils détruisent une parole critique. Donc, ne jamais toucher un sou, rester indépendant.
On va devoir conclure, malheureusement. On ne peut pas conclure sans mentionner l'article de Martine Orange, Le monde orwellien du secret des affaires, parce que cet article parle de la vie qui continue pour le secret des affaires. Le secret des affaires, c'est ce qui a donné lieu à ce collectif. Informer n'est pas un délit. C'était un amendement de la loi Macron et ça pourrait devenir une directive européenne, Fabrice.
Oui, ça va devenir une directive. En fait, en quelque sorte, il est arrivé par la fenêtre d'un amendement de la loi Macron et il revient par la porte de la directive européenne, puisque sans que grand monde, y compris nous, journalistes, nous nous en soucions, ça fait 3 ans que c'est dans les tiroirs du Parlement européen. Le secret des affaires, c'est... si vous me permettez l'image, aux affaires économiques, ce que le secret défense est aux affaires militaires. Voilà. C'est-à-dire, c'est un outil juridique concret. Alors, non pas que le secret soit illégitime en soi. Il faut qu'il y ait...
protège des intérêts.
Il faut qu'il y ait de la vie privée. Il faut qu'il y ait du secret médical. Il faut qu'il y ait des secrets défense pour défendre les intérêts de la nation. Encore savoir ce qu'ils sont. Et moi, je suis pas contre qu'il y ait en soi un secret des affaires pour se protéger de l'espionnage économique. Le problème, c'est que ce secret est si mal défini qu'il peut à peu près tout recouvrir, y compris que l'eau bout à 100 degrés, j'exagère à peine, que ceux qui classifient secret des affaires, ce sont les entreprises elles-mêmes, et que la loi ne contient aucun garde-fou, aucun contre-pouvoir qui va empêcher une utilisation abusive du secret des affaires, non pas pour se protéger de l'espionnage économique, mais en fait pour empêcher que ce soit les journalistes, mais même les autorités de contrôle, de se mêler de la vie des entreprises, par exemple dans le milieu pétrolier, par exemple dans le milieu de l'armement, par exemple dans le milieu des labos et de la santé publique. Donc c'est une arme de dissuasion massive contre le droit de savoir, encore une fois, des citoyens, et qui va permettre une nouvelle fois aux magistrats de devenir ce que nous avions appelé une sorte de rédacteur en chef de la nation et de décider ce qui peut être publié ou non avant même que ce soit publié, ce qui est un renversement de principe dans notre démocratie qui relève du jamais vu et qui va une fois de plus mettre en grande difficulté, si ce n'est en grand danger, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Moi, je préfère parler des sources parce qu'un lanceur d'alerte, c'est une source qui s'assume publiquement. Et donc, on peut toujours dire à main gauche qu'on est pour la liberté d'informer, qu'on aime ça, que bien sûr, on sera toujours ce côté-là. Mais si on empêche les sources d'être à main droite, alors la liberté d'informer n'a plus lieu d'être.
Je signale pour conclure qu'un des chapitres est signé Olivia Recassan et Christophe Labbé, qui ont été condamnés en septembre dernier par la Cour d'appel de Paris pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est une première en France et leur article est consacré au secret des services secrets. On peut retrouver ce chapitre comme tous les autres dans Informer n'est pas un délit, sous la direction de Fabrice Arfi et Paul Moreira. C'est publié chez Calman Lévy. Merci messieurs.
Merci. Merci
à bientôt.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 396 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beut, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadawi, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Pour nous réentendre, c'est sur RFI.fr, soundcloud.com et sur toute bonne application de podcast. Si vous nous écoutez alors que vous êtes en train de courir, de vous déplacer dans la ville, dans la campagne, vous faites bien, partagez la pratique du podcast autour de vous et n'hésitez pas à commenter notre émission sur les différents réseaux de partage audio. Salut à toutes et à tous.
RFI Challenge App Afrique.